Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast La Parole aux orthophonistes. Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice, et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Parole aux orthophonistes. Et aujourd'hui, je reçois Lorraine. Bonjour Lorraine.
Bonjour Sarah.
Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices ?
Oui, donc je m'appelle Lorraine, je suis orthophoniste depuis 2012. Je travaille à Reims et depuis voilà, le début de mon activité, j'accueille des enfants et des adultes qui ont une surdité.
Ok, comment toi t'es arrivée en orthophonie en tout premier lieu ?
Alors, c'est une bonne question. Je pense que ça date du lycée. Lycée, c'était vraiment les années réflexion, qu'est-ce que je vais faire plus tard de ma vie. Arrive la terminale où on se dit, oh là là, le temps passe vite. Et moi, j'ai toujours été une grande créative. Et donc, j'ai hésité longtemps entre décoratrice d'intérieur. Et un jour, je suis tombée sur description de l'orthophonie. Et je crois que ça m'a vraiment parlé. Il y avait le côté création qui revenait, même si ce n'était pas la première chose qui m'a sauté aux yeux. Le côté soin, accompagnement de l'autre. Et je crois aussi que de manière inconsciente, alors moi je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais c'est ma maman qui m'en a parlé plus tard, me dit, mais je crois aussi que tu as fait ça parce que dans ton entourage, tu avais des personnes qui avaient peut-être besoin de toi. Et en effet, j'ai un papa qui a un bégaiement. Et j'ai grandi avec ce bégaiement et sans finalement y faire vraiment attention parce que c'était comme ça. Et j'ai ma tante qui je suis très très proche qui a une surdité. Qui a une surdité et c'est pareil, j'ai grandi avec ça sans forcément y faire attention parce que la surdité finalement c'est un handicap invisible, donc elle a des jolis cheveux blonds avec des beaux appareils bien cachés. Elle travaille, elle est super épanouie dans sa vie. Et puis au fur et à mesure des années, on a son audition qui s'est dégradée et elle s'est fait implanter en 2018. Donc, j'étais aux premières loges pour pouvoir la rassurer, l'accompagner, etc. Donc, je pense que c'est les deux personnes, mon papa et ma tante, qui finalement font peut-être que je suis orthophoniste aujourd'hui.
Génial. Et alors, quand tu t'es lancée dans les études, est-ce que tu avais ces notions en tête, que tu étais intéressée peut-être par le bégaiement, la surdité, ou c'est plus tard que ta maman te l'a fait remarquer ?
Ouais, c'est plus tard et sur le coup, j'étais pas forcément intéressée. Alors le bégaiement, si, ça m'a toujours intéressée. Les cours m'ont beaucoup plu. D'ailleurs, j'en fais beaucoup plus aujourd'hui. Au tout début de mon activité, pas tant que ça, mais aujourd'hui un petit peu plus. Je me suis d'ailleurs formée encore la semaine dernière sur le sujet.
Ah génial.
Et au niveau de la surdité, ça c'est marrant parce qu'en fait, moi j'ai fait l'école de Nancy. Et je suis tombée sur une promo où, en fait, pratiquement tous les cours de surdité ont été annulés. Donc, je n'avais pas du tout de bagage en surdité. Je me sentais pas du tout capable de faire quoi que ce soit. Et quand j'ai été diplômée, je me suis dit, j'aimerais bien faire un peu de salariat pendant 2-3 ans, histoire de me lancer. Je me suis dit, si je ne fais pas de salariat maintenant, je n'en ferai jamais. Je fais du mix quelques années, on verra ce que ça donne. Et j'ai postulé en euros, parce que j'aimais bien les euros. J'ai postulé, je voulais absolument bosser avec TSA à l'époque. Et il n'y avait pas de poste dispo. Et puis au final, sur Reims, la seule opportunité qui s'est présentée, c'était en surdité. Je dis, mais non, mais je ne peux pas faire ça, je ne connais rien, je ne suis pas capable, on n'y va pas, quoi. Et puis j'y suis allée. Et je me suis allée, c'est pour un an. Et puis j'y suis restée 10 ans, en fait, dans mon salariat en surdité. Et au fur et à mesure des années, en fait, j'ai adoré. Donc, en fait, c'était je crois que c'est le hasard qui a fait des choses et c'était un beau hasard parce que je me suis vraiment épanouie dans le domaine.
C'est incroyable. Et comment ça se fait que les cours avaient été annulés C'était
Je
une
ne
raison.
sais pas, franchement, je ne sais pas. Je pense qu'il y avait des problèmes de prof à l'époque. Enfin, je ne saurais même pas te dire. Mais en tous les cas, j'avais vraiment pas de bagages. C'était.
Là, pour le coup, t'as commencé de zéro.
Ah ouais, hein, vraiment, vraiment, il y avait du chemin à parcourir.
Et justement, c'est hyper intéressant. Je trouve que, en fait, il y a beaucoup d'auditeurs et auditrices qui sont en études ou néo-diplômés assez jeunes. Et je pense que ça peut parler à beaucoup, ton expérience justement là-dessus. Comment toi, tu t'es dit, la surdité, tu t'étais pas dirigée vers ça, tu avais l'impression de pas savoir, de pas te sentir capable peut-être. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, j'y vais. Et après, enfin, comment ça a fait que ça s'est bien passé alors que à la base, tu n'avais pas ce bagage théorique?
Ouais, j'avais pas le bagage théorique, mais je me dis aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils pour pouvoir se former, lire. Il y a beaucoup de choses qui permettent rapidement de prendre les rênes pour être un peu plus à l'aise. Et en fait, dans mon salariat, j'accompagnais des enfants, enfin de 3 à 18 ans. Et finalement, alors voilà, la surdité, il y a quand même des choses à savoir, des choses de très spécifique pour vraiment bien développer toutes les facultés auditives, etc. Mais rapidement, en fait, on se retrouve en fait avec des compétences transversales quand on prend en charge un enfant sourd, c'est-à-dire on va avoir besoin de développer son langage oral, son langage écrit, pourquoi pas des fonctions OMF, etc. Donc finalement, on retrouve vite d'autres compétences qu'on a déjà et qui nous rassurent. Donc je pense que c'est ça qui a fait que je me suis accrochée parce que finalement j'avais l'impression d'avoir quand même des outils pour pouvoir me débrouiller au début et rapidement quand même je me suis formée, j'ai lu, j'ai complété mes connaissances.
Ok, donc effectivement, ouais, en fait, t'es pas resté sur le fait que tu n'avais pas de connaissances là-dessus. Tu as essayé, toi, d'aller chercher les informations et d'avancer avec ce que tu connaissais déjà.
C'est ça, c'est
Ok,
ça.
bon, ça donne des pistes si jamais il y en a qui sont concernés pour trouver un premier travail et que ce n'est pas forcément ce à quoi ils s'attendaient en salariat, par exemple. Et quand tu t'es renseigné, quand tu as fait des lectures, etc., où est-ce que tu es allé chercher les infos?
C'est une bonne question. Voilà, ça a beaucoup évolué dans ma pratique, mais c'est vrai que voilà, sur les réseaux sociaux, on a quand même beaucoup de pistes pour les formations. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Orthophonie et Audition qui est super chouette et qui permet d'avoir plein d'infos en direct. Et puis après, voilà, toutes les lectures, voilà, recherche personnelle pour connaître un petit peu tous les bouquins. Alors, depuis 2012, il y a plein de nouveaux bouquins aussi qui sont sortis et qui sont vraiment top. Je pense notamment à un là, qui a été publié en 2019 ou 2020, je crois, qui parle aussi bien de la surdité de l'adulte que de la surdité de l'enfant, du bilan à la rééducation. Donc, il est très bien conçu. Et pour débuter, je trouve que c'est vraiment un outil à avoir.
Ah,
Te
génial.
donner la référence du bouquin,
Ouais.
mais et pour commencer, c'est top.
Ah bah super, on mettra le lien dans la description si des gens sont intéressés pour approfondir le sujet ou n'ont pas eu de cours comme toi.
Voilà.
Dans les formations aussi, comment tu t'es renseignée pour trouver des formations sur le sujet qui t'intéressait?
Surtout, je pense, réseaux sociaux. Après, aujourd'hui, maintenant, on est principe de newsletter hein, qui permet bien d'avoir toutes les informations. Il y a, je pense, une multitude maintenant d'outils. Après, il faut aller chercher. Il faut se renseigner. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on a tellement de formations qui sont là dans tous les domaines que c'est difficile de faire des choix.
Ouais, c'est clair.
Mais si vraiment on veut se former en surdité, ça se trouve assez facilement. Hein. Ouais, je dirais moi surtout par les réseaux newsletters, réseaux sociaux, etc.
Ok, bah super, merci. Et quand tu as commencé à travailler, du coup, c'était ton premier poste hein, en surdité, c'est ça.
Ça.
Et est-ce que tu as le souvenir de si c'était compliqué, du coup, de faire ton poste en surdité et après faire des recherches du coup, ça te rajoutait cette notion en plus?
Ouais. C'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps. Oui. Après, c'est vrai que moi, je fais partie de ces orthophonies, je pense, qui sont plutôt passionnées par ce qu'elles font. Et des fois, quand je, voilà, je, ça peut m'arriver le soir, je suis tranquille en train de regarder la télé ou autre. Et j'aime bien, voilà, prendre mon ordi, prendre un livre, y compléter mes connaissances. C'est pas, je vois pas forcément ça comme une contrainte et une charge de travail en plus. C'est vraiment assez agréable pour moi. Donc, ouais, à partir du moment où c'est pas une contrainte, je pense que c'est plus facile quand on sort de sa journée de travail et qu'on a juste envie de souffler, de faire autre chose. Quand on aime ce qu'on fait, c'est un petit peu plus facile. Donc, j'ai pris du temps surtout, bah, sur les soirées où, voilà, je travaille pas. Le vendredi après-midi non plus, donc voilà, quand il y a besoin, je peux prendre ce temps-là pour pouvoir faire des formations ou approfondir un petit peu mes lectures, ouais,
Ouais, mais c'est
avec
quelque chose qui
plaisir en
t'intéresse.
fait.
Ouais,
Exactement.
génial. Et donc tu as travaillé d'abord dans ce centre, donc tu disais pendant 10 ans, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Donc
Ouais.
ouais, je t'ai été diplômée en 2012, donc ça fait pas si longtemps que ça que j'ai arrêté. Ouais, j'ai passé 10 belles années avec des super collègues et ça a été vraiment un poste très très riche. Côté de ça, j'étais en libéral,
Ok,
donc je
dès
faisais deux activités et
le début.
c'est vrai. Oui, dès le début. Dès le début, j'ai fait une
D'accord.
activité mixte. Oui. Et c'est vrai qu'au bout de 10 ans, voilà, j'avais envie de faire autre chose, de voir autre chose. J'ai eu deux petites filles entre-temps et après ma deuxième grossesse, c'est vrai que j'avais envie de changement. Donc, j'ai démissionné de ce poste en 2021, 2022, 2022.
OK.
Et j'ai pris un poste toujours en salariat parce que voilà, une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est quand même super de travailler en équipe et ça me plaît beaucoup. Donc maintenant, je travaille à 20% dans un centre d'implantation cochléaire. Donc en fait,
D'accord.
toujours dans la surdité et pas du tout, voilà, le même travail, la même pratique. C'est très différent, très enrichissant et ça complète bien en fait tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. J'étais davantage axée sur la prise en soin, la rééducation auparavant et là on est vraiment sur du bilan. Voilà, c'est plutôt maintenant un peu comme, on va dire, une expertise finalement où on fait les bilans, on échange beaucoup avec des orthophonistes, on oriente les patients. Donc c'est du bilan, du bilan pré-implant, du bilan post-implant, ce qu'on appelle aussi de la reprise d'annonce diagnostique. Donc quand des petits bébés viennent être diagnostiqués, on les reçoit très rapidement en fait après l'annonce pour pouvoir reprendre plein d'éléments avec eux, les orienter vers une orthophoniste en libéral, effectuer, voilà, un suivi régulier pour bien accompagner. Je peux aussi, voilà, être amenée à parler à aménagement scolaire, à faire des présentations surdité dans les écoles, dans les crèches pour vraiment compléter vraiment. En fait, j'essaye vraiment d'être au plus proche des besoins, en fait, des familles et des adultes aussi, bien sûr, répondre, voilà, à leurs besoins en fonction des problématiques et avoir un petit peu ce regard qui vient compléter celui de l'orthophoniste libérale. Parce que l'orthophoniste libérale, elle a un vrai lien privilégié en fait avec les familles où on est, les adultes, on apprend à les connaître, on est vraiment au cœur vraiment de la rééducation et de leurs besoins. Et en fait, voilà, le fait d'être en centre d'implantation cochléaire, c'est vrai qu'on a un petit peu ce recul aussi qui vient compléter le regard de l'orthophoniste libérale. Donc c'est vraiment très riche, très 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 chouette. Donc j'aime beaucoup cette nouvelle pratique. Et ça vient bien compléter en fait aussi mon libéral, où en libéral j'accueille de plus en plus en fait pareil d'enfants et d'adultes avec surdité. Dans la plupart des cas, chez l'adulte en tout cas implanté, chez l'enfant c'est appareillé ou implanté, donc ça c'est top. Vraiment, je m'épanouis beaucoup dans mon travail.
C'est génial, ça a l'air hyper intéressant. Et je me pose une question, enfin, moi j'ai un peu un avis sur la question, tu vas me dire ce que tu en penses aussi. Est-ce que tu as l'impression que c'était plus intéressant pour toi de faire le centre d'implantation cochléaire après avoir fait 10 ans où tu étais en rééducation au long cours et de maintenant être dans la partie un petit peu bilan et où tu orientes un petit peu les orthophonistes? Est-ce que du coup ça. T'as l'impression que c'était plus favorable pour toi de faire d'abord la rééducation et après le bilan plutôt que l'inverse?
C'est une très bonne question, Sarah. Je pense que oui, en effet, parce que le fait d'avoir fait la rééducation, en fait, je connais vraiment les besoins, en fait, de mes patients. Et le fait de commencer directement par les bilans sans savoir, en fait, quel est le contenu de la rééducation, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur pour moi. Donc oui, là, ça me permet, en fait, d'avoir, parce que c'est vrai qu'on les voit peu, hein, finalement, on les voit bilan. si je prends l'adulte en pré-implant, je les vois une fois en pré-implant, puis 6 mois post-implant, puis tous les ans, on les voit peu, donc il faut rapidement qu'elles soient ciblées, quels sont leurs besoins. Et donc pour ça, bah, il faut quand même avoir des connaissances plutôt solides sur la rééducation. Ouais. Donc oui, je pense que vraiment, ça a été un plus pour moi. Ouais, vraiment.
Ouais, et en plus, j'imagine que du coup, si tu as des orthophonistes qui t'appellent parce qu'elles ont des questionnements ou des choses comme ça, toi, tu es vraiment une interlocutrice, pardon, privilégiée parce que tu
Exactement.
as été à leur place en fait avant.
Exactement. Et c'est vrai qu'on essaye aussi, en fait, au centre d'implantation, d'avoir un réseau d'orthophonistes et de pas se contenter de ce réseau-là. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir accueillir toute nouvelle orthophoniste qui a envie, en fait, de se lancer. Donc, on essaye beaucoup de. Ben, on appelle en fait déjà toutes les orthophonistes quand on a un patient. On essaye d'appeler l'orthophoniste la plus proche du patient pour trouver quelqu'un, que ça soit simple en fait dans la rééducation. Et des fois, ils nous disent, ben, en fait, j'ai jamais fait, j'ai peur. Et en fait, on est normalement très bienveillante, très rassurante. On les accompagne, on leur explique, on leur donne des pistes de matériel, de trames un peu de rééducation pour vraiment rassurer. Et on leur dit qu'on est là ben, à tout moment pour échanger si besoin, quoi. Donc ouais, c'est chouette. C'est chouette d'avoir vraiment tout ce lien avec les orthophonistes. Ça prend beaucoup de temps sur ben, forcément notre journée, parce que sur la journée, il y a les bilans, il y a la rédaction des comptes rendus, et puis il y a toute cette partie en coordination en fait à mettre en place. Mais c'est très riche.
Et ça fait vraiment partie de ta fiche de poste, un petit peu de faire toute cette coordination. Ouais.
Oui, on a retravaillé sur la fiche de poste et c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire. C'est vrai que, enfin, moi quand je suis arrivée, je me suis dit. Ben, ça me semble inenvisageable en fait qu'un adulte avec une surdité, on puisse lui dire, ben voilà, vous allez trouver votre orthophoniste vous-même, vous allez prendre votre téléphone et appeler. On sait déjà à quel point c'est difficile de trouver une orthophoniste. En plus, une orthophoniste qui ne connaît pas la surdité, souvent elle va dire, ben non, en fait, je ne fais pas, appeler quelqu'un d'autre. Et puis pour un adulte sourd, prendre son téléphone et appeler, c'est très difficile. Donc on imagine bien le nombre d'appels en plus nécessaires avant de trouver quelqu'un. Moi, ça me semblait inimaginable.
Oui.
Donc ouais, j'appelle pour les patients. Une fois que l'orthophoniste est OK, je donne les coordonnées. Et là, le patient est quand même chargé de reprendre contact avec l'orthophoniste par mail ou par téléphone, par SMS, enfin, ce qui l'arrange.
Oui.
Et ensuite, voilà, ils prennent le contact entre eux. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un sacré plus de pouvoir, bah, ouais, les aider, les accompagner et pas les laisser se débrouiller parce que. Et puis le fait ici de nous prendre le téléphone et de dire d'appeler les orthophonistes, ça m'est déjà arrivé qu'ils me disent, oh là là, non, je fais pas du tout. Et en fait, quand on commence à les rassurer au téléphone, finalement, bah, elles ont quand même des fois envie de se lancer. Donc ça nous
Ouais.
permet d'avoir des nouvelles alliées en fait pour les prises en charge de rééducation,
Et ouais, parce que
d'implant
là,
cochléaire.
tout de suite, quand tu as parlé du fait de prendre enfin d'appeler pour les patients, etc., je me disais, ah, est-ce que ça relève pas plus d'une mission de secrétariat ou quoi? Mais en fait, toi, quand tu as les orthophonistes au téléphone, il y a un discours que tu as en tant qu'orthophoniste en centre d'implantation qu'aurait pas un ou une secrétaire.
Oui, je pense, parce qu'on. Voilà, oui, vraiment. Oui, vraiment. C'est pas juste, je vous appelle, madame, voilà, voici, j'ai une prise en charge à vous partager. Non, non, c'est. Je vais partager des informations et sur bah, le patient, ses besoins. Puis il y a aussi quand même une histoire d'urgence, parce que c'est vrai que quand on voit les patients en bilan pré-implant, derrière, quand l'implantation est faite et que l'activation se passe 3 semaines après. L'implantation, la prise en charge, elle doit commencer directement. On ne laisse pas de temps, il faut vraiment y aller, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer d'être au plus rapide, au plus efficace.
Et s'il y a des orthophonistes là qui nous écoutent et qui se disent, ah bah tiens, en fait, ça m'intéresse, j'aimerais bien me lancer dans ce type de rééducation, qu'est-ce que tu leur conseilles pour qu'on leur adresse des patients?
Eh bien, de contacter les centres d'implantation cochléaire, justement, parce que c'est vrai, on entend souvent des orthophonistes dire, oh ben moi, j'ai jamais eu de demande. Alors, c'est vrai qu'on essaye, nous, comme je le disais tout à l'heure, hein, de pas se contenter d'un réseau, parce qu'on a normalement, on n'est même pas censé, voilà, pouvoir avoir un réseau. C'est pas quelque chose de, voilà, de normal. Donc, on essaye vraiment. Voilà, je sais que l'année dernière, via l'URPS, j'ai fait repasser des questionnaires en demandant à toutes les orthophonistes de la région, est-ce que vous prenez en soin? Est-ce que vous avez envie de nous donner des coordonnées pour qu'on puisse vraiment, en fait, pouvoir toucher et contacter tout le monde. Donc, ouais, en premier lieu, on contacte au plus proche géographiquement. Et puis, bah, si après, s'il y a refus du orthophoniste parce qu'elle ne sait pas faire, on va chercher un petit peu plus loin. Mais oui, il faut pouvoir voilà, accepter tout le monde avec grand plaisir, surtout que souvent, il y a des déserts médicaux où il y a vraiment des besoins. Donc, si des orthophonistes ont envie, je pense que la première chose à faire, c'est de contacter le centre d'implantation cochléaire le plus proche.
Donc, n'hésitez pas à contacter les centres d'implantation cochléaire. Et donc là, du coup, toi, tu as changé en 2022. Est-ce que tu avais rencontré des difficultés à ce changement d'exercice? Enfin, est-ce que tu as gardé déjà le même cabinet libéral ou ça aussi t'a changé?
Oui, non, j'ai toujours le même cabinet. Bon, là,
D'accord.
les collègues, on est en train de changer, mais pour voilà, on part pas très loin, on part dans le même village, mais on change de locaux, donc
Ouais.
un petit peu de changement aussi là pour l'année à venir, mais sinon ouais, c'est toujours le même voilà le libéral depuis 2015, donc ça a pas bougé.
Ça ne bouge pas.
Non.
Et est-ce que du coup, ça a été difficile de retrouver une organisation là en changeant de lieu d'exercice en salariat? Ou est-ce qu'au contraire, ça s'est fait de façon très fluide pour toi?
Ça s'est fait vraiment de façon fluide. J'ai gagné un petit peu en temps parce que c'est vrai que j'étais à mi-temps en fait sur mon ancien salarié. Là, je suis à 20%, ce qui me laisse un petit peu de temps dans la semaine déjà pour aussi profiter de mes filles qui sont encore toutes petites
Oui.
et d'avoir du temps en fait pour mes activités vraiment annexes, donc bah, formation, lecture, projet, voilà, projet autre de formation, de matériel personnel, parce que bah, j'ai besoin de ce temps-là pour pouvoir aller plus loin dans mes projets. Donc
Et
non, j'ai gagné vraiment en confort d'avoir changé en fait.
ah bah génial. Et justement, je voulais te demander, qu'est-ce que tu fais en fait quand tu n'es pas au cabinet, quand tu n'es pas en salariat? Tu nous disais qu'il y avait d'autres projets. En quoi consistent ces projets?
Bien là, j'ai deux gros projets que j'ai lancés. Le premier, c'est ma formation. Formation forcément dans le domaine de l'audition. Et c'est une formation sur l'éducation auditive de l'enfant sourd. Donc c'est une formation en fait qui se veut théorique mais surtout pratique avec une espèce de boîte à idées, boîte à outils sur l'éducation auditive justement pour aider bah, les orthophonistes à se lancer, avoir un contenu bah, qui soit riche parce que c'est vrai que l'éducation auditive est vraiment au cœur de la prise en soin d'un enfant sourd et que moi quand j'ai commencé justement et que j'ai fait toutes mes recherches parce que j'avais pas été formée, bah, j'ai cherché plein d'idées en fait d'éducation auditive et que je trouvais pas grand-chose en fait pour avoir voilà une chouette boîte à outils. Et en fait, dans mon ancien salariat, j'ai mis en place des groupes d'éducation auditive, des petits groupes, voilà, d'enfants, de 3-4 enfants, âgés de 3 à 5 ans. Et il fallait, voilà, qu'on ait des outils qui soient adaptés, ludiques. Donc, bah, au fur et à mesure, en fait, des séances et des années, j'ai constitué cette petite boîte. Et j'ai eu envie d'en faire une formation. En fait, même. Maintenant que j'y repense, au tout début, je m'étais dit, je vais en faire un manuel, parce que j'ai déjà, par le passé, édité du matériel, mais ça, je t'en reparlerai juste après, parce que c'est avec les autres projets. J'ai déjà édité du matériel et je me suis dit, ah ben, pourquoi pas faire un manuel, en fait, d'éducation auditive avec des idées, etc. Et puis, donc ce manuel était quasiment fini. Et arrivé, en fait, le premier confinement. En 2020, donc j'étais en train de faire du jardinage. Et puis je réfléchissais à tout ça, parce que ça cogitait toujours beaucoup dans ma tête. Et là, je me suis dit, mais ouais, un manuel, c'est chouette, mais bon, enfin, lire des idées d'activité dans un manuel, c'est pas très riche, c'est pas très stimulant. Et je me suis dit, bah, si on, c'est plutôt une formation. Ce serait beaucoup plus dynamique, sympa. Et donc, c'est comme ça qu'en 2020, j'ai tout changé. Pour le format pour en faire une formation. Donc tout 2020-2021, en fait, j'ai bossé sur le projet et j'ai dispensé ma première formation en 2022. Donc c'est tout
Super.
récent. Ouais.
C'est sous quel format ta formation?
Alors, c'est en présentiel.
OK.
Là, j'ai voilà, c'est en présentiel. Donc j'ai fait une première formation via le syndicat en fait. Voilà, je l'ai faite à Reims chez moi avec le syndicat qui du coup m'a beaucoup soutenue parce que bah, c'était chez moi avec des orthophonistes que je connaissais. C'était super, enfin pas toutes d'ailleurs, mais c'était très sympa. Et par la suite, en fait, y a Barbara Baker de chez Auravoice qui m'a fait rejoindre sa belle équipe hein, qui est spécialisée plus dans le domaine de justement ORL en fait. Donc voilà, l'audition, la surdité, il trouvait toute sa place. Et donc là, il y a des dates qui sont prévues en présentiel et puis il y a des premières dates en visio également qui sont prévues. Donc voilà, c'est ouais, le prochain projet là 2023, c'est de pouvoir réussir à diffuser en fait cette formation et que ça puisse convenir plaire aux orthophonistes qui se lancent dans la surdité. Donc ça peut être pour des orthophonistes qui connaissent déjà bien la surdité et qui ont besoin de voilà de d'approfondir dans le domaine de l'éducation auditive, mais ça peut être aussi pour des orthophonistes qui ne connaissent pas bien, qui ont besoin justement d'outils pour pouvoir oser se lancer.
Ok, super intéressant comme projet. Et donc là, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ta formation, ils peuvent la retrouver sur Auravoice alors.
Auravoice, tout à fait. Oui,
Ok.
elle est en ligne sur Auravoice. Et puis moi, j'essaye aussi de pouvoir voilà, donner des dates, etc., sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook et puis sur ma page Instagram aussi, qui s'appelle Éveillons l'audition.
On la
Donc
mettra
voilà,
aussi dans la description.
voilà. Donc si voilà, je redonne pas mal d'infos sur ma page et voilà, s'il y a besoin, facile à retrouver.
Ok, donc ça déjà, ça, c'est un projet qui doit te prendre effectivement pas mal de temps, mais qui doit être super riche parce que là, en plus, en présentiel, tu peux échanger directement avec les orthophonistes qui assistent à la formation. Donc toi, j'imagine qu'après, ça te fait penser à d'autres choses pour modifier ta formation ou d'autres idées de matériel ou de choses comme ça.
Exactement, tout à fait. C'est vrai que l'idée, c'est que c'est une boîte à idées. Donc, moi, je donne mes idées, mais on réfléchit aussi ensemble. Donc, au fur et à mesure, il y a des nouvelles idées qui émergent. Et ce que je dis aux stagiaires, c'est que cette boîte à idées, en fait, elle est là aussi pour grandir et avoir de nouvelles idées tout ensemble. Donc, oui, ça donne souvent, il y a des questions qui sont hyper intéressantes et qui font rebondir, qui me disent, ah bah oui, tiens, ça, je peux ajouter dans ma formation. Et une formation, ouais, c'est tellement riche et adaptable. Enfin, je pense que à chaque fois que je la relis, je me dis, ah tiens, il faut que j'ajoute ça, tiens, il faut que je change ça. Enfin, c'est jamais figé, en fait. Et c'est ça qui est chouette, c'est que ça bouge avec le temps, avec nos lectures, avec nos rencontres, avec notre profession, avec les patients qu'on rencontre. C'est adaptable, modulable et ouais, et très riche.
Génial. Et tu disais que tu avais fait un matériel déjà?
Oui. En fait, j'ai fait plusieurs matériels. J'ai fait, dans le cadre de mon mémoire de fin d'études, j'ai fait un matériel qui, à l'époque, dans le cadre de mon mémoire, s'appelait Tous en scène et qui s'est transformé en coup de théâtre, qui a été édité par Ortho Édition à l'époque, en 2012. Et donc, oui, comme je disais à l'époque, enfin, au tout début, je voulais travailler avec des enfants de TSA. Donc, j'ai fait mon matériel sur les troubles de la pragmatique. Et donc, c'était une très, très chouette expérience. Et forcément, ouais, je me souviens de ma soutenance de mémoire, où en fait, le président était un professeur. Et quand il avait vu mon matériel, il avait dit, oh ben, mademoiselle, voilà, c'est un beau travail que vous avez fait là. Et c'est un premier, mais je pense que ce n'est pas le dernier. Et en effet, c'était pas le dernier parce que j'ai eu envie forcément de poursuivre l'aventure du matériel. Et j'ai une super copine voilà, orthophoniste qui s'appelle Marion Vercouter qui une fois est venue me voir et me dit oh, Lorraine, j'ai une idée de jeu là, ça te dit pas qu'on essaye de faire ça ensemble? Et voilà, après des soirées à se faire des petits repas et à travailler sur le matériel, est né en fait le train des sons, qui a été édité cette fois-ci chez Site Inspire. Et puis, on ne s'est pas arrêté là, on en a fait un troisième. Cette fois-ci, c'était moi qui ai eu l'idée parce que voilà, j'avais besoin de travailler avec mes adolescents sur la polysémie. Et donc, on a fait Polisson qui est sorti chez Ortho Édition.
Ok.
Donc là, c'était ouais, les trois matériels qu'on a fait éditer. Et en fait, bah forcément, j'ai toujours des idées dans ma tête de nouveaux matériels. Et faisant de plus en plus de surdité dans ma pratique, j'ai eu besoin assez rapidement d'outils pour la prise en soin de l'adulte implanté cochléaire. Et donc, j'ai commencé à créer en fait des fiches, des activités pour mes patients. Et au fur et à mesure, ça s'est étoffé. Et là, je l'ai mis en page pour créer en fait un manuel que cette fois-ci, je vais auto-éditer. Donc là, c'est une sacrée aventure parce que je n'ai jamais fait. Donc ça comporte son lot voilà, d'imprévus, de questionnements, de remises en question. Et donc ce matériel, en fait, je l'ai reçu la semaine dernière, mais une erreur chez l'imprimeur. Donc il est reparti chez l'imprimeur. Et donc, je dois le recevoir. Il part aujourd'hui normalement de l'entrepôt. Je dois le recevoir lundi pour, j'espère,
D'accord.
le mettre en ligne la semaine prochaine.
Ah bah super, on va
Ouais,
surveiller.
ouais,
Où est-ce
ouais.
qu'on
Ouais.
pourra le retrouver?
Eh bien, sur mon site internet qui s'appelle Éveillons l'audition. Donc, je partagerai de toute façon le lien voilà, sur la page Insta, page Facebook, etc. Ça s'appellera Les petits thèmes auditifs et
Et
ça
quoi,
va
j'ai pas
être
entendu?
les petits thèmes auditifs.
Ah, ok.
Les petits thèmes auditifs. Et donc, c'est cinq grands thèmes qui sont la cuisine, le quotidien, le sport, le voyage et le travail. Donc, avec des activités déclinées pour travailler des étapes d'éducation auditive, à savoir la discrimination, l'identification, la compréhension. Une petite partie également sur la mémoire et l'attention auditive. Et pour permettre de suivre, en fait, la prise en soin de l'adulte implanté. Ça marchera aussi pour les adolescents. Ouais, ça, c'est le gros projet à 2023 et j'espère que ça plaira. En tous les cas, moi, je sais que c'est un outil que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mes prises en soins et ça fonctionne bien. Donc, voilà, affaire à suivre.
Ah bah super. Bon bah quand l'épisode sortira, le livre c'est sûr sera
Sera sorti.
déjà en ligne, même s'il y a encore
J'espère,
un imprimeur,
j'espère.
c'est bon, il sera sorti, c'est sûr.
J'espère.
Ah bah génial. Donc on mettra tout ça dans la description pour le retrouver. Et moi je sais déjà à qui je vais en parler. J'ai une copine qui fait de la surdité à fond. Je vais lui en parler, ça va
Ah,
l'intéresser.
merci Sarah. Merci beaucoup. J'ai besoin de petits coups de pouce, je pense, pour lancer les choses, parce que c'est vrai que l'univers de l'auto-édition, je pense que c'est pas simple. Je pense qu'il faut réussir à pouvoir faire connaître le matériel pour pouvoir avoir des retours positifs, que ça puisse se lancer. Donc, c'est tout nouveau et je suis un peu excitée, mais j'ai aussi peur, en fait. Donc, voilà, j'espère que en tous les cas, ça plaira et ça servira. C'est vraiment le but premier.
Mais c'est vrai que dans tous les cas, toi, tu partages quelque chose que tu utilises et qui te plaît et dont tu es
Ah
satisfait.
oui.
Donc après, enfin voilà, si ça trouve pas son public tout de suite, ça le trouvera plus tard. Et puis dans
Oui.
tous les cas, ouais, si toi, t'en es contente,
Ah,
enfin
moi
voilà.
je ouais ouais moi c'est des enfin je travaille dessus les premiers exercices que j'ai écrits c'était en 2015. 2015, c'était mon premier patient implanté cochléaire et c'était une petite aussi petite dédicace pour lui parce que ce patient est décédé en fait il y a quelques mois et les premiers exercices que j'ai conçus c'était vraiment pour lui donc c'est une petite pensée pour lui aussi un petit clin d'œil et ouais et donc depuis 2015 on est en 2023 donc ça en fait ça a eu le temps de cheminer d'être modifié construit reconstruit testé par mes copines qui font aussi de la surdité corrigé relu chaque petite virgule il y aura peut-être encore des fautes je ne sais pas mais ça a été en tous les cas peaufiné pour essayer d'en faire quelque chose de vraiment vraiment parfait donc j'espère que voilà que ça plaira aux
Ah ben
orthophonistes.
super, en tout cas bravo pour ce gros projet.
Merci beaucoup.
Est-ce que t'en as d'autres, des projets ou ça va?
Ben, là, ça va. Enfin, il y en a toujours dans un coin de ma tête, forcément. Hein. Tu l'auras compris, je pense que c'est en ébullition. Mais là, c'est vraiment les deux gros. Voilà, pour l'instant, il y en a, en tous les cas, pas d'autres qui sont suffisamment mûris pour aboutir.
Pas tout de suite, en tout cas.
C'est
Il faut
déjà
qu'on
point là.
surveille les prochaines années.
C'est ça.
Et si on revient plus sur le domaine de la surdité à part entière, en dehors de tes formations et tes projets, moi, je me demandais s'il y avait des stéréotypes ou des idées que tu entendais à propos de l'audition et que tu avais envie de démystifier avec nous.
Oui, c'est une bonne question. Je pense que la première chose que je dirais, c'est de ne pas avoir peur de se lancer. Parce que la première idée qu'on entend, notamment quand je reçois mes stagiaires, hein, souvent elles me disent je n'ai jamais vu en stage de surdité, je n'ai voilà, avec mes cours, je me sens pas capable de me lancer. C'est souvent qu'on entend ça. Et c'est dommage en fait de rester avec ces a priori. J'en suis la preuve. Première, je crois, qu'on peut se lancer et qu'on peut y arriver. Et je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en nos capacités et que c'est possible en fait d'y arriver. Peut-être que voilà, s'il manque un petit peu de confiance en soi, un petit peu de lecture, un peu de formation, ça va vraiment aider à se lancer, mais il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir y arriver. Et il ne faut pas se mettre de frein. C'est vraiment des belles prises en charge. Enfin, chez l'adulte, on voit réellement de résultats qui sont très rapides quand ça fonctionne bien, avec une belle évolution. Et c'est vraiment, je trouve, des rééducations dans lesquelles on a un vrai lien de confiance avec nos patients. On est leur orthophoniste, mais on a aussi une écoute attentive, bienveillante. On les accompagne et bah, souvent, ils sont très heureux en fait, de cette relation privilégiée. Donc, c'est vraiment des belles rééducations. Et concernant les enfants, bah, on sait qu'on va les avoir pour plusieurs années. On a vraiment des familles, il y a des parents qui doivent être partenaires, en fait. Moi, je leur dis souvent, vous êtes bah, les experts de votre enfant. Moi, je suis l'expert voilà, de la surdité, de la communication de manière générale. Mais ensemble, on va monter quelque chose voilà, pour votre enfant ensemble. Et c'est vrai que c'est vraiment des très belles rééducations. Et c'est dommage de se mettre des freins parce qu'on ne se sent pas capable. Je pense que vraiment chaque orthophoniste a les moyens et les capacités de pouvoir le faire.
Génial. Et qu'est-ce que tu en penses quand on entend qu'on ne peut pas faire, on peut pas travailler en surdité si on ne signe pas?
Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y aura peut-être autant de réponses que d'orthophonistes. Bah, forcément, je pense qu'avoir une base de signes, c'est quand même un plus. Moi, je sais que les signes me servent dans ma pratique. Après, enfin, quand on lit un peu les définitions de la Haute Autorité de Santé, il y a deux approches qui sont... Qui apparaissent. Il y a ce qu'on appelle l'approche audiophonatoire et l'approche visio-gestuelle. Donc, l'approche visio-gestuelle, c'est vraiment une approche avec la langue des signes comme langue première. Donc, c'est plutôt pour des enfants de parents sourdsignants. Et c'est vrai que dans nos cabinets, ce n'est pas forcément la majorité en fait, des patients qu'on rencontre. Donc, souvent, on se situe plutôt dans une approche qu'on dit audiophonatoire. Et dans cette approche, il y a deux cas de figure. Donc là, vraiment, le but, c'est vraiment le développement de la fonction auditive de manière intensive, avec pour projet le développement de la communication orale. Et donc, soit ben, on utilise les signes en complément, on fait langue orale plus signe, soit on fait le choix d'utiliser l'oral sans support de signe. Donc, c'est possible, en fait, de faire de la surdité sans une utilisation de signe. Après, pour moi, ce qui est le plus important, en fait, c'est... le respect du projet de communication des familles. C'est-à-dire, moi, quand je reçois une famille, très rapidement, on aborde le sujet du projet de communication. Et pour moi, c'est important bah, de les accompagner, de les guider, de leur dire tout ce qui existe, qu'ils aient connaissance de tout et qu'ils puissent vraiment faire leur choix, que ce soit vraiment un choix libre et éclairé, en fait, en fonction des informations qu'ils ont. Et en fait, moi, ce projet de communication, bah, je le respecte. Si j'ai des familles qui me disent, bah, nous, on veut de la langue des signes, je mets des signes. Si les familles me disent, non, j'en veux pas, eh ben, j'en mets pas. Je les accompagne, je les guide. Et puis après, bah, c'est aussi l'enfant qui va se développer et qui va avoir des besoins. Souvent, quand même, les signes peuvent être un support, surtout au tout début, quand on n'a pas d'implantation cochléaire, qu'il n'y a pas de forme de communication, c'est quand même un plus de pouvoir communiquer, en fait, par le biais, des signes. C'est vraiment une belle langue, un beau support. Bon, notre but, c'est pas de leur apprendre une langue, mais là, on apporte quand même un outil en attendant d'eux. Et puis, des fois, bah, de toute façon, on continue et ils ont les deux langues et c'est super. Mais voilà, si on est une orthophoniste et qu'on n'a pas de signes, en fait, le plus simple, c'est d'être bah, au clair avec nos outils et ce qu'on peut proposer en fait aux familles. Si on reçoit une famille et qu'on leur propose et qu'ils me disent bah, « moi, je veux des signes », il faut être clair en disant bah, « moi, j'ai pas la possibilité de vous apporter ça aujourd'hui, je préfère vous orienter vers une autre collègue ». Voilà, il faut en être en accord avec ben, nos moyens et puis ben, le projet de communication des familles, quoi.
Ouais, mais c'est bien, tu vois, que tu nous l'expliques comme ça, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cette idée que forcément recevoir quelqu'un dans le cadre de la surdité, ça veut dire qu'il y aura des signes à mettre en place et que du coup, il faut maîtriser. En fait, ça dépend du projet de communication de chacun. S'il n'y a pas la volonté de mettre des signes, si on ne maîtrise pas la langue des signes, au final, on peut quand même les recevoir.
Ben oui, alors attention, en tous les cas, enfin c'est toujours une question très délicate et je pense vraiment que ce que mes propos ne peuvent ne pas plaire à tout le monde. Mais c'est vrai que voilà, si moi j'ai une famille qui me dit dès le début, mais moi je veux pas de signe pour mon enfant, je vais pas les forcer en fait. Moi je respecte leur choix. Enfin c'est essentiel qu'on soit sur une relation de confiance et qu'on respecte le choix des parents.
C'est
Après, il y
ça.
a le choix des parents et il y a les besoins de l'enfant. C'est-à-dire qu'après, on verra par la suite quels sont les besoins spécifiques.
Et ce que tu disais, c'est que tu donnais vraiment tout l'éventail de possibilités et pour leur laisser un choix éclairé aussi. C'était pas juste au premier rendez-vous sans en avoir discuté. C'est que tu expliques aussi les choses
Ah
avec eux et
oui.
après,
Ah
eux
oui.
prennent la décision.
Ouais, c'est vraiment une réflexion commune. Voilà, je leur donne des outils de réflexion, on en discute ensemble, de la lecture, enfin voilà, c'est vraiment une réflexion aussi de leur côté.
Ok, et ben en tout cas, ouais, je pense que ça peut être rassurant pour des personnes qui ont peut-être quelques bases en langue des signes, mais qui n'osent pas se lancer parce qu'elles pensent qu'il faut être complètement signante ou quoi. Ça peut être.
Ah ouais, non, pas du tout. En fait, enfin moi je vois les choses comme oui, la langue des signes aujourd'hui, c'est un réel plus dans ma pratique. Je l'utilise régulièrement, mais j'ai pas non plus un niveau de dessin. Enfin, j'ai un niveau à 2.1, je me débrouille, mais je suis du moins d'être fluide. Mais chez un enfant, voilà, je vois de 0 à 3 ans. Le but, c'est pas de développer la langue des signes chez cet enfant. Hein. Au début, c'est comme un enfant qui va en crèche, on est sur du bébé signe, on accompagne l'oral de signes, etc. Donc oui, non, il n'y a pas besoin d'être interprète en langue des signes pour pouvoir lancer.
Ouf, c'est rassurant.
Ben,
On va arriver à la dernière question du podcast, Lorraine. Toi qui as la parole aujourd'hui, quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et aux auditrices?
d'oser vous lancer, de prendre confiance en vous et voilà, de découvrir la surdité. C'est un domaine qui est vraiment riche et vraiment incroyable. Enfin, moi, je m'épanouis beaucoup et je pense vraiment que tout le monde peut le faire. Donc, faut pas avoir peur, faut y aller. Et voilà, si un jour vous avez une demande, ben voilà, contactez des gens, posez des questions, lisez, formez-vous, mais ne dites pas non. C'est vraiment une belle aventure.
Super. Eh ben, merci beaucoup pour ce que tu partages, Lorraine. Et on suivra du coup tous les prochains projets qui arrivent très bientôt.
Merci beaucoup. Merci, merci.
À très bientôt, Lorraine. Au revoir.
À bientôt.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. Ça compte beaucoup pour moi et les invités. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à La Parole aux Orthophonistes.